Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Il est 7h09, c'est RMC, le week-end des experts se poursuit. Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue chez nous, un bon réveil sur RMC. Vous le savez, jusqu'à 8h, c'est notre vétérinaire qui m'accompagne, Laetitia Barlerin. Et puis juste après, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Jean-Luc qui répondra à toutes vos questions auto. Et on vous réserve aussi un spécial véhicule électrique tout à l'heure à l'occasion évidemment de la conférence sur le climat, hein, la COP21. On reviendra sur sans doute l'énergie du futur, hein, dans le domaine de l'auto avec Renault et Nissan qui bien sûr propose pas mal de nouveautés. On en parlera tout à l'heure. Et puis bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions concernant le véhicule électrique à partir de 9h sur RMC. Mais dans l'immédiat donc dans l'automobile, Laetitia, nous aussi nous allons parler de COP21. Dans l'émission Animaux, pardon, spéciale COP21, avec plusieurs petits sujets liés aux animaux et à l'environnement.
Et pour commencer, nous allons parler des océans.
Oui.
Pourquoi les océans? Parce que d'abord, les océans recouvrent les trois quarts de notre planète. Et les océans sont très importants puisque c'est un enjeu écologique majeur. Alors, est-ce qu'on va en parler à la COP21 ou pas? Je sais pas. En tout cas, nous avons avec nous Philippe Valette, qui est directeur général au Centre National de la Mer. Nausicaa, vous savez, c'est l'aquarium.
Oui.
Le grand aquarium, magnifique aquarium, qui est à Boulogne-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, donc on est à la veille de la COP21. Le centre Nausicaa et d'autres partenaires de la plateforme Océan Climat 2015 agissent depuis des mois pour que l'océan soit au cœur des discussions de ce 21e sommet sur le climat. Alors pourquoi l'océan? Dites-nous pourquoi c'est si important, pourquoi l'enjeu écologique est très important pour l'océan?
Effectivement, l'océan, c'est le plus grand régulateur du climat de la planète. Et l'océan également absorbe une grande partie du CO2 que l'on émet en excès. Et pour ce faisant, il absorbe ce CO2 grâce à sa matière vivante, c'est-à-dire à sa biodiversité, grâce au plancton végétal en particulier. Et c'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir un océan en bonne santé, pour pouvoir préserver le climat. C'est tout l'enjeu de cette plateforme Océan Climat qu'on a créée lorsqu'on s'est aperçu que dans les textes de négociation, l'océan était quasi absent.
Ah oui, d'accord. Il parle quoi de surtout d'énergie renouvelable ou des choses comme ça, et pas d'océan?
Oui, c'est ça, et d'émissions de gaz à effet de serre. Mais l'océan était quasiment ignoré. Il l'est toujours relativement. On a un peu gagné du terrain, mais c'est vrai que l'océan, c'est toujours le grand oublié de toutes les négociations internationales.
Et pourtant, l'océan, il a aussi un rôle dans la régulation du climat, justement, puisqu'il il intervient dans le cycle de l'eau, dans la qualité de l'air. Il régule le climat quelque part.
Oui, j'ai parlé de l'absorption du CO2, mais il est aussi le plus grand répartiteur de chaleur de la planète, puisque par ses très grands courants, tel on connaît bien le Gulf Stream par exemple, l'océan amène les calories jusque de l'équateur vers les pôles, et donc c'est extrêmement important. Nous, par exemple, si on n'avait pas les grands courants océaniques, et en France, le Gulf Stream en particulier, eh bien on aurait la température qu'il y a à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc vous voyez, c'est extrêmement important, et il faut surtout préserver ces grands équilibres qui risquent d'être en effet modifiés par la fonte des calottes polaires, par exemple.
Justement, quand on pense au réchauffement climatique, on pense bien sûr à la fonte de la banquise. Quel est l'impact sur la faune des deux pôles?
Alors, la fonte de la banquise, pas beaucoup, puisque si vous faites fondre un glaçon dans un verre, le niveau d'eau ne change pas. Par contre, les calottes polaires du Groenland, par exemple, ou de l'Antarctique, elles ont une grande influence sur notamment la montée des eaux, parce que la montée des eaux va toucher évidemment en premier lieu les pays qui sont bas sur l'eau, mais aussi notre métropole, par exemple. On parle toujours du retrait du trait de côte, vous savez, eh bien ce littoral est en train de changer sous nos yeux.
Et la faune elle-même est en train de changer, la faune marine, je veux dire.
Oui, parce que comme effectivement les poissons, par exemple, vont chercher plus de fraîcheur loin des endroits où ils sont, eh bien, en effet, la faune migre vers le nord, a tendance à migrer vers le nord, en tout cas celle qu'il peut, puisque la faune fixée, évidemment, a beaucoup plus de mal. Donc, on constate déjà qu'il y a des transformations dans les poissons qu'on pêche, ne serait-ce qu'au large de Boulogne-sur-Mer.
Il y a des poissons qui aiment bien les eaux chaudes, puisque comme on a un réchauffement climatique, on a un réchauffement des océans. Est-ce que certains poissons ne profitent pas justement de ce réchauffement climatique ?
Alors, on a constaté depuis quelques années que les rougets barbets étaient en quantité importante au large de Boulogne-sur-Mer. Il y a toujours eu des rougets barbets en Manche, mais pas dans ces quantités-là. Effectivement, eux aiment bien une température plus élevée. Oui. Et donc, on le constate, c'est un peu comme si on voyait le réchauffement climatique devant nos yeux.
Et les méduses ?
Alors, les méduses, vous savez, pour faire de la soupe de méduses, c'est-à-dire des endroits où il y a énormément de méduses, il faut trois choses. Il faut lessivage des sols qui amène des engrais, parce que les méduses mangent du phytoplancton, et le phytoplancton, ce sont des plantes, donc quand les engrais viennent en mer, eh bien, ça fait beaucoup de phytoplancton. Il faut de la surpêche, puisqu'il y a moins de poissons qui mangent les larves de méduses. Et puis, il faut de la température plus élevée, et on arrive au changement climatique. Et quand vous avez ces trois phénomènes-là qui sont réunis, oui, vous avez des endroits où il y a des explosions de méduses. Il y a des mers maintenant qui ont des méduses tout le temps.
Oui. Oui, notamment en Méditerranée, hein, d'ailleurs.
Alors, en Méditerranée, c'est encore un peu cyclique, mais effectivement, on constatait de toute façon naturellement tous les 7 ans environ, années à méduses.
Oui, mais maintenant, c'est tous les ans.
Et aujourd'hui, c'est quasiment tous les ans.
Et oui. Et alors, parlons des mammifères marins, des baleines, des autres cétacés. Est-ce que eux aussi sont sensibles au changement climatique ? Est-ce qu'on a observé des changements ?
Alors, sur les migrations des baleines, pas à ma connaissance. Par contre, sur certains mammifères, tels que les éléphants de mer, ou certains oiseaux, tels que les manchots empereurs, ce qu'on a constaté, c'est que ils ont besoin d'aller chercher leur nourriture de plus en plus loin. Pour les éléphants de mer, par exemple, vers l'Antarctique, ils ont des chemins de plus en plus longs à parcourir. Et on constate que les faibles ne résistent pas.
Ah, donc il y aurait quand même des conséquences sur les populations marines,
des
mammifères.
Dès à présent. Alors, j'ai pas parlé d'une chose aussi qui est importante, c'est l'acidification des océans. Parce que le CO2 qui se dissout dans l'océan se transforme en acide carbonique et de ce fait acidifie l'océan. L'océan est un milieu relativement basique, hein, un pH normal fréquent, c'est aux alentours de 8. Eh bien, aujourd'hui, on a constaté que en moyenne, l'océan s'était acidifié de 0,1 degré de pH. Donc, alors ça peut paraître peu, mais en fait, pour les individus, les espèces qui vivent dans la mer, c'est beaucoup. Et c'est une promesse entre guillemets qui n'est pas de bon augure, puisque tous les individus qui ont besoin de faire un squelette calcaire, risque d'avoir plus de mal à le faire. Et alors, on pense évidemment aux coquillages, etc. Même les poissons ont besoin de faire un squelette calcaire. Évidemment, leur arête est en calcaire.
Donc, ça veut dire qu'il y aura une conséquence sur toutes les populations de vertébrés et les coquillages.
Donc, il y aura certainement une conséquence. Et aussi, je vous ai parlé du phytoplancton. Le phytoplancton, il émet, c'est 50% de l'oxygène que l'on respire. Eh bien, la moitié du phytoplancton a besoin d'élaborer une petite logette calcaire. On voit un peu les conséquences. C'est pour ça qu'il faut absolument limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc limiter à 2 degrés le changement climatique.
Ben j'espère que on vous entendra demain et cette semaine lors de cette
pour limiter la casse, on va dire.
Et on n'a pas
parlé de la montée des océans, mais ça c'est un autre débat, on va dire.
Et le plus urgent, c'est quand même de sauver, comme vous dites, les océans.
Voilà, il faut limiter la casse.
Merci Philippe Valette.
Merci beaucoup.
Rappelons que vous êtes directeur général de Nausicaa. Laetitia, on revient dans un instant, 7h19. Et après les océans, on va s'intéresser aux abeilles. Voilà, abeilles, semble-t-il, sont aussi menacées.
Bien sûr.
Et on va en parler avec une opération de parrainage assez étonnante.
Et oui, on peut agir pour les abeilles. Vous, comme moi, vous pouvez agir tout simplement en parrainant des abeilles. Pourquoi pas.
À tout de suite, c'est RMC. N'hésitez pas, 3216 ou animaux@rmc.fr si vous voulez nous joindre.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h20, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, et on vous propose un spécial COP21 ce matin avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Après avoir parlé de la biodiversité menacée par le changement climatique au niveau des océans, on va maintenant s'intéresser aux abeilles, Laetitia.
Et oui, et nous sommes avec Régis Lipinois, qui est directeur de Un Toit pour les Abeilles. Régis, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, Un Toit pour les Abeilles est un réseau d'apiculteurs français qui propose aux particuliers comme aux entreprises de parrainer leurs ruches pour sauver les abeilles. Alors, pourquoi, dites-nous un peu quel est ce concept et pourquoi surtout une telle initiative ?
Depuis pratiquement une quinzaine d'années, on a des mortalités très importantes chez les abeilles,
oui,
avec pratiquement 30% des colonies qui sont touchées chaque année. Donc ça signifie qu'un apiculteur qui ne fait rien, au bout de quelques années, n'a plus d'abeilles.
Ça veut dire 30% des ruches qui disparaissent ?
Oui, alors c'est pas partout le même pourcentage sur tout le territoire. Donc on a des zones où on a des mortalités qui vont être de l'ordre de 60% et d'autres zones ça va être 10%, mais en tout cas en moyenne c'est très très important.
Oui.
Et l'idée est venue du fait que les apiculteurs représentent un poids économique qui est finalement très faible. Ce sont 1800 professionnels en France qui sont souvent très mal payés.
Oui.
Donc quand ils se mettent à faire une manifestation, finalement ça rassemble pas grand monde. Par contre, si on met en perspective le service écologique rendu par l'abeille, le problème prend une autre dimension.
Oui, parce que l'abeille, c'est pas seulement la petite l'insecte qui nous donne son bon miel, c'est aussi un pollinisateur.
Voilà, l'abeille, c'est la pollinisation de 80% des plantes à fleurs, et sans elle, ce serait les trois quarts de notre alimentation qui serait directement menacée.
Oui, parce que je crois que c'est la plupart de nos cultures en Europe, donc ces fruits, légumes, oléagineux, ont besoin justement des pollinisateurs, des insectes pollinisateurs pour donner les fruits.
Exactement. C'est vraiment un maillon essentiel de la biodiversité. Et si vous vous amusez à faire un repas sans tout ce qui est pollinisé par l'abeille, vous apercevrez qu'il ne resterait pas grand-chose sur la table. Donc elle a vraiment un rôle majeur dans toute la chaîne écologique, et sans elle, on aurait de gros problèmes. Voilà, donc l'idée en fait est vraiment partie de ça.
Oui.
Les apiculteurs ont cherché à le soutien des particuliers, des entreprises, et à créer un lien affectif entre ces abeilles, les apiculteurs et les gens qui parrainent les ruches. Et donc c'est de là qu'est vraiment né ce projet, de cette prise de conscience du rôle de l'abeille et de l'intérêt d'avoir un soutien massif autour d'un projet comme celui-là.
Alors, vous savez, demain, c'est la COP21. Alors, on parle des causes de l'hécatombe des abeilles. Elles sont multifactorielles. On a souvent parlé dans cette émission. Alors, on met en premier lieu, c'est vrai, les pesticides. Mais est-ce que les dérèglements climatiques ont aussi un impact sur les ruches ?
Alors, à long terme, c'est une évidence. À partir du moment où ces dérèglements climatiques induisent des changements majeurs sur la nature, clairement, on va avoir la végétation qui va changer, donc les abeilles seront impactées. Aujourd'hui, par contre, sur le vrai problème de mortalité de façon immédiate, clairement, ce sont les pesticides, c'est la monoculture aussi qui est responsable, donc la perte de biodiversité, et puis aussi beaucoup la mondialisation, c'est-à-dire qu'on a fait circuler des maladies et des parasites, en particulier le varroa,
mm-hmm.
qui est une sorte de petite puce, on va dire, pour simplifier, qui vient se greffer sur l'abeille et qui lui transmet des maladies. Donc là, on a vraiment les trois pesticides, monoculture et mondialisation qui sont les trois problèmes majeurs.
Alors, il y a certains pays, certaines zones qui font l'amère expérience d'une nature sans abeilles, comme en Chine.
Oui, on a mis un petit film sur notre site internet, untoitpourlesabeilles.fr. C'est assez parlant, puisqu'en fait, on voit des êtres humains qui vont jouer le rôle de pollinisateurs, qui sont avec une petite plume pour récolter du pollen et qui vont aller féconder les fleurs avec ce pollen-là. Donc imaginez, là en l'occurrence ce sont sur des poiriers, imaginez un poirier avec quelques milliers de fleurs et un être humain qui va passer de fleur en fleur. On est tout simplement dans un scénario cauchemardesque et très difficile de revenir en arrière. Puisqu'en fait, si on n'a plus de fleurs, on ne peut plus réintroduire d'abeilles. Et s'il n'y a plus d'abeilles, les fleurs ne se reproduisent plus.
Oui, on casse le cycle, en fait, voilà. C'est ça.
Exactement, et c'est très très difficile de revenir en arrière.
On parle des abeilles, bon, c'est l'ensemble des insectes pollinisateurs, c'est-à-dire les abeilles et les insectes sauvages pollinisateurs, mais l'abeille a vraiment un impact plus grand que les autres, que les abeilles sauvages ou les autres insectes ?
Alors, ce sont les abeilles, tous les insectes pollinisateurs qu'il faut protéger, et de façon plus vaste, il faut respecter la vie animale dans son ensemble, et végétale, la vie dans son ensemble. L'abeille, par contre, est clairement devenue un symbole. Il y a un capital sympathie qui est très très fort avec l'abeille, hein, de 7 à 77 ans,
c'est vrai.
On l'aime.
Oui.
Elle produit quelque chose qui est magnifique, qui est le miel aussi. Donc voilà, on utilise ce symbole-là, déjà ça pour assurer sa préservation, et ensuite, de façon plus vaste, c'est souvent le prétexte pour parler développement durable avec les gens et dans les entreprises, et essayer de faire changer tout doucement les mentalités, de faire comprendre que cette emprise de l'homme sur la nature, ça n'est pas une bonne chose, et qu'il va falloir composer avec elle plutôt que d'essayer de lutter contre elle.
Bah alors, parlez-nous du parrainage d'une ruche. Si on veut vraiment agir pour les abeilles et les sauver, comment ça se passe concrètement ? Comment on devient parrain d'une ruche ?
Alors, concrètement, c'est très simple. On a un site internet qui s'appelle untoitpourlesabeilles.fr sur lequel on va pouvoir faire toutes les démarches. La première chose qui va se passer quand vous parrainez une ruche, c'est qu'on va donner naissance à une nouvelle colonie d'abeilles. Donc ça, c'est un acte très concret. On va essayer de multiplier les colonies d'abeilles. Ensuite, on va installer cette ruche sur un lieu que vous choisissez sur le site internet. Si vous êtes une entreprise, ça peut être sur le toit de votre entreprise ou dans un terrain qui vous appartient. Mais de façon plus générale, ce sont des ruchers qui sont répartis sur tout le territoire français. Ensuite, on va installer cette ruche avec le logo de l'entreprise ou un petit nom sympathique si vous êtes un particulier. On vous ouvre un espace internet sur lequel vous allez voir vivre la ruche au fil des saisons. Vous recevrez des nouvelles de votre ruche et de vos apiculteurs une fois par mois. Mmh. On va vous inviter à venir visiter vos abeilles. Ça n'est pas obligatoire, mais si vous voulez le faire, on passe un moment ensemble autour de la ruche.
C'est sympa. Et puis,
oui, ça c'est très sympa.
Et puis sur le gâteau, on profite du travail des abeilles.
Exactement. Donc ça, c'est le petit cadeau des abeilles. On a des pots de miel qui sont personnalisés.
Ah, super.
Voilà, soit avec les logos de l'entreprise ou avec le
et du miel 100%, prénom, voilà, du miel 100% français, ce qui devient rare quand même aujourd'hui.
Exactement, donc du miel 100% français et artisanal, puisqu'un toit pour les abeilles, c'est un réseau d'artisans, donc de petits apiculteurs qui travaillent souvent seuls ou en famille. Donc on a vraiment un produit artisanal et français de qualité.
Régis, ça coûte combien le parrainage de ces abeilles ?
Pour un particulier, on commence à partir de 8 euros par mois. Donc pour l'ensemble, pour le miel, pour venir visiter la ruche, pour les nouvelles, le site internet, etc. Mmh. Et pour une entreprise qui a sa propre ruche, on commence à partir de 900 euros par an.
D'accord. Très bien. Ben merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Donc voilà, une sympathique initiative.
Merci Régis. Donc je rappelle l'association qui s'appelle untoitpourlesabeilles.fr, hein, et voilà, vous allez voir, vous pouvez choisir vos ruches et puis vous avez du miel quand même.
Ouais, et puis 8 euros par mois.
Oui, bon, et vous sauvez les abeilles, et moi j'ai rencontré un apiculteur qui a bénéficié justement d'un toit pour les abeilles, il voulait arrêter parce qu'il avait perdu 90% de ses ruches en un hiver. Et grâce justement à ce parrainage, il a pu avoir d'autres essaims, d'autres ruches et faire du miel.
Merci beaucoup Régis. On revient dans un instant. Laetitia, après la météo et les infos, on va s'intéresser aux oiseaux qui, eux aussi, sont perturbés par ce réchauffement climatique. Le 32-16 ou animaux@rmc.fr si vous voulez nous joindre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Il est 7h33, c'est... c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux jusqu'à 8h avant de retrouver Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Vous le savez, l'auto, c'est chaque dimanche 8-10. Laetitia Barlerin, pour notre dernière ligne droite, on poursuit ce rendez-vous dédié à la COP21 et après avoir évoqué les océans, les abeilles, eh bien, nous allons dans un instant parler des oiseaux qui sont perturbés par le réchauffement climatique. Et puis,
en tout cas, on va le voir.
Oui.
Si vraiment ils sont perturbés.
Et juste après, nous évoquerons ensemble cette histoire incroyable de ce chien qui est en finale de la France, un incroyable talent.
Oui, l'émission d'M6.
Sur M6. Voilà.
Nous aurons Juliette, sa propriétaire, avec qui il faut, les deux forment un super duo. Ils font du dog dancing. Et oui, c'est-à-dire danser sur un air de musique, bien sûr.
Et puis bien sûr, voilà, on découvrira tout à l'heure le témoignage de cette propriétaire de ce chien. Laetitia, on va retrouver donc notre rendez-vous sur ces oiseaux qui seraient éventuellement perturbés par le réchauffement climatique dans un instant. On parlera aussi de notre petite vidéo LOLCAT tout à l'heure, puisque vous le savez, chaque dimanche matin, on vous sélectionne une petite vidéo amusante. Et cette semaine, on vous a sélectionné un corbeau. Je viens de voir la vidéo qui est assez rigolote quand même. C'est un corbeau qui...
Qui fait de la luge
sur les toits d'une maison. Mais ça, on a vraiment l'impression qu'il s'amuse, quoi.
Oui,
c'est un truc de dingue. Moi, je suis assez impressionné par l'intelligence des corbeaux qui ont parfois des comportements humains. Ils font des trucs incroyables. Vous savez que les corbeaux arrivent, par exemple, à aller choper de la nourriture dans des pièges, enfin, dans des labyrinthes hyper complexes.
Des animaux les plus intelligents, hein, même titre que les singes, les dauphins, les perroquets aussi, chez les oiseaux. Et c'est vrai que là, on se partage entre le fait que est-ce qu'il veut casser cette petite... il y a un anneau sur lequel il fait la luge, parce qu'il pique le anneau, donc est-ce qu'il veut le casser et puis du coup il fait de la luge, ou est-ce qu'il joue vraiment, on ne sait pas. Il ne peut pas nous le dire non plus, mais c'est très marrant, c'est
très
sûr.
Bien. Ce sera tout à l'heure cette petite vidéo qu'on retrouvera bien évidemment, comme à chaque fois vous le savez, sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Laetitia, on va retrouver maintenant une petite question mail, puisque vous le savez, vous pouvez à tout moment nous poser vos questions par mail à animaux@rmc.fr. Laetitia est là 24h/24, 7 jours/7. Bon, cela dit, voilà, on concentre toutes vos questions pour le dimanche matin entre 6 et 8. Hein. Petite question de Patrice. Laetitia, j'ai une femelle bosseron de 10 mois. Elle écoute très bien, mais a tendance à toujours vouloir sauter sur les gens dès qu'elle les voit. Ça, c'est un classique hein, de notre rendez-vous.
Et oui.
Et que faire ? Parce qu'un bosseron qui saute sur les gens, bonjour.
Elle saute pour atteindre la face, hein, la figure, hein, pour dire bonjour, tout simplement.
Et oui, c'est un peu comme nous quand on se fait la bise.
Voilà, quand vous regardez deux chiens qui s'aiment bien et qui se rencontrent, ils se font une petite léchouille sur la face. C'est leur façon de dire bonjour. Et en même temps, l'un dit qu'il est un petit peu le subordonné de l'autre. Le problème des chiens, c'est que bien souvent, on les a encouragés petits à sauter involontairement, dans le sens où on les a caressés
quand ils
étaient mignons, tout petits, le chiot qui nous
lèche. Et on s'incline devant eux, justement, parce qu'on leur parle, etc.
Voilà.
On les papouille.
Et du coup, quand ils sont âgés, adultes en tout cas, ils font la même chose pour accueillir les gens. Alors, ce qu'il faut faire, d'abord, vous demandez à vos amis, quand ils arrivent et que le chien saute sur eux, c'est de ne pas crier, de ne pas lui parler, de ne pas la toucher, puisque ça l'encourage, justement. Plus on crie, plus on lui dit non,
elle va
venir. Et puis de se mettre 2-3 quarts, les mains dans les poches et de regarder autre part pour ne pas encourager son comportement.
Mm-hmm.
Vous, de votre côté, Patrice, vous lui dites, si elle est très obéissante, vous lui dites non, assis ou au pied,
oui.
Si elle écoute bien. Ou alors, si elle n'écoute pas, vous allez carrément la prendre et lui appuyer derrière le crâne en pinçant, si vous voulez, le crâne, tout simplement pour la mettre par terre. Hein, c'est pas douloureux du tout, mais elle va comprendre qu'il faut qu'elle revienne par terre, qu'elle ne saute plus et qu'elle écoute justement ce que vous lui dites. Et après, si elle se calme et qu'elle est à vos pieds, vous la caressez pour la remercier de faire ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc voilà, à chaque fois, c'est les amis ne doivent pas bouger, ne doivent pas répondre à ce saut de bosseron. Et vous, soit vous la cadrez par la voix, soit vous lui pincez juste derrière le crâne pour la faire s'abaisser et aller jusqu'au sol. C'est pas douloureux, ne vous inquiétez pas. C'est un peu ce que font aussi les chiens entre eux. Vous savez, ils se prennent la tête et puis ils le mettent jusqu'au sol pour que le chien se calme. C'est ce que fait la chienne avec ses chiots. Et normalement, ça devrait marcher.
Bon, voilà. Et si tout comme cet auditeur, donc Patrice, vous voulez poser votre question à Laetitia Barlerin, c'est le moment ou jamais, profitez-en, on est là jusqu'à 8h. Hein. Le 32-16 ou bien animaux@rmc.fr. Laetitia, je sais que vous regardez souvent la télé. Je sais que vous aimez les divertissements sur la télé et donc vous regardez sans aucun doute, tout comme moi, de temps en temps, La France a un incroyable talent.
Et oui.
D'autant que vous savez que l'animateur de cette émission, c'est un très bon ami à moi, c'est Alex Good.
Ah bon?
Voilà.
Oh,
on embrasse, il nous écoute, c'est vrai.
Oh,
c'est vrai, c'est vrai.
Mais
bien sûr, Malatia, tout ce que vous voulez. Et alors, en ce moment, dans cette compétition, La France a un incroyable talent.
On en est aux demi-finales.
On en est aux demi-finales et il y a Juliette qui, avec Charlie, fait un carton.
Eh oui, ils se sont qualifiés pour la finale. La finale qui aura lieu le 8 décembre.
C'est génial.
Et oui.
Et nous avons Juliette avec nous.
Et nous avons Juliette avec nous. Juliette, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Alors, vous et votre chien Charlie, vous êtes vraiment devenus des stars hein, en quelques semaines grâce à La France a un incroyable talent sur M6. Et grâce à un numéro avec Charlie. Alors, c'est un numéro de dog dancing. C'est-à-dire que vous dansez vous faites en tout cas une chorégraphie avec votre chien en musique. Charlie est un croisé épagneul setter. Alors, d'abord, racontez-nous l'histoire de Charlie.
Alors, Charlie, en fait, je l'ai rencontré au refuge il y a deux ans et demi.
Dans un refuge SPA, c'est ça?
Dans un refuge SPA, voilà. Et j'y suis allée parce que j'avais perdu ma chienne juste avant. Et j'avais envie d'un autre chien, quoi. Et donc, je me suis baladée dans les cages. Je voulais prendre un chiot et je voulais prendre une femelle. Et en fait, je suis arrivée devant sa cage et puis je suis repartie avec un chien mâle de 2 ans. Déjà, mes amis au début m'ont dit mais t'es sûre que c'est pas une erreur? T'as pris le bon et tout? Elle m'avait dit un chiot et une femelle. Je crois que c'est pas ça.
C'est le coup de cœur.
C'est ça. Mais je sais pas, en fait. Enfin, il était plutôt mignon, mais il avait quelques kilos en trop, donc il faisait 25 kilos, aujourd'hui il en fait 18, donc c'est pour vous donner un petit ordre.
Ah. Oui, mais il fait du sport avec vous.
Là, il est complètement, voilà. Il est fitness, là, il est au top.
Vaut mieux dans une de vos chorégraphies, il monte sur votre dos quand même. Hein. Donc 25 kilos et 18 kilos, c'est deux choses différentes quand même.
Ça, sur les pieds, c'est pareil, ça fait pas le même.
Et sur les pieds, oui, c'est vrai, il monte aussi sur vos pieds. Et alors, ce chien qui est un chien de chasse, c'est pas forcément. Bien souvent, dans les chorégraphies de dog dancing, on voit des border collies, des chihuahuas, mais pas forcément des chiens de chasse. Comment vous avez fait pour lui apprendre ce numéro, pour lui apprendre toutes ces figures, d'autant plus que ce n'est pas un chiot, il avait 2 ans.
Je sais pas. Je sais pas, c'était du travail en fait. Au début, je l'ai fait travailler en balade. Donc déjà, ça c'est compliqué parce qu'en balade, il y avait toutes les odeurs, les machins qui bougeaient et tout. Donc il n'était pas super concentré. Puis au fur et à mesure, il a commencé à travailler bien, bien en balade. On a fait des petites démonstrations et en fait c'est progressivement et maintenant il va sur un plateau de télé et puis il fait ça très bien et moi je me dis mais il est dingue ce chien, il fait ça très bien, même moi je le ferais pas si j'étais lui.
Mais il n'est pas impressionné, il n'est pas perturbé par toutes ces caméras, il y a beaucoup de techniciens, il y a des lumières, c'est quand même assez impressionnant pour un chien.
Il n'est pas, les caméras quand ça bouge juste derrière lui, il se retourne de temps en temps pour regarder, pour se dire mais je passe à la télé en fait.
Il prend la pause.
Ou il regarde un peu, puis moi je le rappelle, je suis dans ma Charlie, reste avec moi.
En tout cas, bon, ce que j'ai vu moi dans les figures que j'ai vues, enfin dans les numéros, c'est qu'il ne vous quitte pas des yeux. C'est incroyable. On a l'impression qu'il y a une fusion entre lui et vous.
C'est ça.
C'est vrai?
Je sais pas si c'est vrai, il faut lui demander à lui. Mais
Alors, vous êtes arrivé en finale, en demi-finale, grâce à Dave, quand même, faut le dire, oui. Au Golden Buzzer. Alors, c'est-à-dire que Dave pouvait utiliser qu'une seule. Enfin, le jury, parce qu'il y a 4 hein, personnes dans le jury. Il y a Hélène Séguéra, Dave, Eric Antoine et Kamel Wally. Chacun peut utiliser une fois sur les.
C'est son joker en quelque sorte,
voilà,
c'est ça?
Voilà, sur les centaines, je crois qu'il y a des centaines de participants, une fois sur Golden Buzzer pour que cette personne aille directement en finale, en demi-finale, c'est ça?
C'est ça. Alors, juste pour le jury, en fait, Dave y remplaçait Hélène Ségara ce jour-là, le jour de mes auditions. Donc, sinon, le jury, c'est Gilbert Rozon, Hélène Ségara, Kamel Wally et Eric Antoine. Mais sinon, le principe du Golden Buzzer, c'est ça. Ils ont chacun, en fait, un Golden Buzzer qu'ils peuvent activer pendant toute la durée des auditions.
Et, qu'une seule fois.
Dans les auditions, on était 800. Après, ils en ont passé 150 à la télé, je crois, quelque chose comme ça. Mais en tout, on était 800.
Ah, et alors, mais qu'est-ce que vous avez... Vous étiez en pleurs, il me semble bien. Qu'avez-vous pensé à ce moment précis? Est-ce que vous avez été remerciée d'Ève?
Alors, ce que j'ai pensé à ce moment précis, oh mon Dieu.
Voilà.
Et après, c'est Dave qui est monté sur le plateau pour me voir et pour me faire un câlin parce que je pleurais beaucoup. Donc oui, après, je lui ai dit merci. C'est normal, quoi.
C'est normal. Alors, vous préparez le bouquet final, on va dire, hein, le numéro pour la finale.
Oui.
Alors,
j'imagine que la pression, là,
ouais,
est au maximum.
Elle
hein,
est
Juliette.
Au maximum, là, la pression, non? Vous entraînez tous les jours?
Finalement, moins que pour la demi-finale, j'ai l'impression. Parce que je me dis, là, c'est bon, on est à la finale, on ne peut pas aller plus loin après. Enfin, on peut gagner, mais on ne peut pas aller plus loin après. Donc, à la limite de ne pas gagner, d'être dixième, ce n'est pas grave. On sera allé en finale quand même. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir moins de stress.
Et vous savez que c'est le vote du public qui compte, là. Vous êtes confiante?
Oui. Bon, déjà, le public, il a déjà montré qu'il nous aimait bien. Alors, c'est peut-être bien.
Bon, très bien, alors rendez-vous là, c'est qu'en début décembre hein, pour la
finale. C'est le 8 décembre.
Le 8 décembre.
Pas mardi qui arrive, mais l'autre, parce que là, mardi, là, les demi-finales continuent, et c'est le 8 décembre où on découvrira votre numéro qui est presque au point, là, j'ai l'impression.
Presque au point. Il est presque au point dans ma tête. Après,
mais voilà, il faut
sur
que...
le plateau, c'est différent.
Et Charlie, il fonctionne à quoi? C'est quoi sa motivation?
Charlie, il fonctionne au lardon, au knacki, au fromage à raclette, au comté, au camembert.
Ah ouais, ça doit être sympa les poches de Juliette.
Ah ouais, non mais c'est une horreur.
Des petits bouts de comté, des petits bouts de lardon, des saucisses.
Pas de poids de morue aussi.
Ah, ça c'est encore plus sympathique.
Ah, c'est une bonne odeur.
Dans les mains en fait.
Voilà, c'est ça.
Ah.
Bon ben Juliette, on vous souhaite plein de réussite pour le 8 décembre.
Voilà, on sera devant nos écrans, on va voter pour vous. En tout cas, moi je vais voter pour vous parce que vraiment ce
moi
que
aussi.
Vous faites c'est super. Vous êtes toutes mignonnes, vous avez 19 ans, faut le préciser et Charlie est vraiment un super chien et je précise aussi que vous avez sauvé un autre chien, une femelle malinois du nom de Daika que vous êtes aussi en train de préparer pour un dog dancing, c'est ça?
C'est ça, exactement. Mais elle a encore besoin d'un peu de travail, elle, parce que c'est un peu plus compliqué de la travailler.
Oui, parce qu'elle est un peu peureuse.
C'est ça, elle a été battue, elle a dû vivre dans une cage dans le noir, donc elle n'a aucune socialisation au monde extérieur, et elle a été massacrée, en fait. Donc elle a les oreilles qui sont découpées, et puis on lui a ouvert le crâne à coups de massue.
Oula.
Bah, vous, préparez-la pour l'édition 2016 de la France, un incroyable talent, ça lui fera du bien. Et puis je sais aussi que vous voulez en faire votre métier, c'est-à-dire être dresseur d'animaux pour le cinéma. J'espère aussi que ça va. En tout cas, vous êtes bien parti.
C'est bien parti, oui, c'est vrai.
Là, franchement, ce que vous faites, ce que j'ai vu, c'est super, vraiment.
Merci Juliette.
Merci.
Merci beaucoup.
Bonne chance.
Et bonne chance pour le 8.
Et une caresse pour Charlie.
Je lui dirai.
Merci Juliette.
Bientôt.
Au revoir.
Et on revient dans un instant, Laetitia. Et on va enchaîner avec vos questions puisque nous aurons Françoise qui va nous parler de son Springer qui mord tout et déchiquette tout. C'est une espèce de bulldozer, ce chien, visiblement. Donc elle aimerait savoir si on peut changer son comportement. Le 32-16, animaux@rmc.fr, c'est votre rendez-vous animaux sur RMC jusqu'à 8h. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 8h-10, c'est RMC, le week-end des experts et les animaux. Avant de retrouver tout à l'heure Jean-Luc Moreau pour l'automobile, eh bien Laetitia, on poursuit avec les questions, vos questions en direct au 32-16. Et c'est Françoise que nous accueillons. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour messieurs, dames.
Voilà.
Bonjour Françoise. Bonjour. Moi c'est Laetitia.
Et moi c'est François. Laetitia. Mais voilà. Bon, c'est comme vous voulez.
Laetitia et François, bonjour. Donc voilà notre souci. Nous avons Springer Spaniel Anglais qui a maintenant 7 mois.
Oui.
Une très jolie bête, très gentille, adorable, tout ça et tout. Mais il a un gros défaut, il déchiquette tout. Donc c'est un chien que nous promenons énormément. Il sort à peu près 2 heures tous les matins, 1 heure l'après-midi. Après, il a un très grand jardin. Mon mari souvent dort avec lui. Mais malgré ça, tout ce qu'il trouve, mais ça peut être n'importe quoi. Hier, c'était une boîte d'engrais, avec un autre avec du gazon, avec ce sera un pinceau, un rouleau, n'importe quoi. Tout ce qu'il peut trouver, il se met sur ses pattes arrière, il va chercher très haut et il déchiquette tout après dans le jardin. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut le gronder? Est-ce que ce comportement va passer? On ne sait plus.
Cette bête. Mais il le fait en votre présence ou en votre absence ou les deux?
Les deux.
Il a 7 mois, oui. Il reste bébé dans sa tête, hein. Parce que un chiot explore son environnement oralement. Ça veut dire que un chiot aime bien porter à sa gueule, mâchouiller. Toucher avec sa gueule tout ce qui se trouve dans son environnement. Ça fait partie de son expérience. C'est comme ça que il met dans sa gueule des choses qui lui font mal et puis il se dit ça vaut mieux pas y toucher. Et normalement à 7 mois le comportement change. Dans le sens où ça se calme, hein. D'autant plus qu'il est très souvent avec vous. Alors, ça se calme pas si c'est un chien qui est souvent seul et qui a besoin de s'occuper, qui s'ennuie, ou qui a besoin de sentir aussi l'odeur de son maître. Donc, peut-être. c'est pas des objets touchés par vous ou votre mari.
Si, en général, si quand même. Hein. Oui, c'est quand même des choses. Il va chercher des choses que. Ou voilà, je pense surtout à du bricolage, du matériel de bricolage, ou des habits qu'on a dans notre sous-sol, des vieux habits. Si, c'est quand même plutôt des choses qu'on a touchées, ça c'est sûr. Oui,
bon.
Ça, c'est sûr.
Alors, ce qu'il faut faire surtout, c'est ne pas hurler sur lui ou lui dire non, etc. Parce qu'il va pas comprendre.
Il va pas comprendre.
Ça peut l'exciter parce qu'il peut. Pour lui, ça peut être un jeu dans le sens où dès qu'il touche quelque chose, il sait que vous allez venir, donc c'est presque une demande d'attention. Donc, ce qu'il faut faire plutôt, c'est prendre, par exemple, une balle et lui lancer la balle pour qu'il arrête de toucher ce qu'il a touché. Et sinon, s'il y a un objet qu'il touche plus particulièrement, par exemple des outils, etc., mettez des outils bien en évidence devant lui et mettez dessus du tabasco ou de la moutarde. Parce que dès qu'il va toucher les outils, ça va le brûler, bien entendu, hein, le tabasco ça brûle, et il va comprendre qu'il y a des choses qu'il faut pas toucher. Donc voyez, plutôt mettez sur des objets qu'il a l'habitude de toucher pour aussi attirer votre attention. Moi je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Et dès qu'il touche quand même quelque chose que vous voulez pas, vous lui lancez la balle pour qu'il switche sur autre chose et ne s'occupe plus de ses objets.
Merci en tout cas Françoise pour votre appel. Laetitia, on va revenir sur la COP21 et évoquer maintenant les oiseaux. Les oiseaux qui seraient peut-être perturbés par le réchauffement climatique. On en parle avec Frédéric Giguet qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et co-auteur d'un livre qui s'appelle « Tous les oiseaux d'Europe » aux éditions de Lachaud et Niestlé. Alors depuis ce matin, on parle des conséquences du réchauffement climatique. Alors on pense bien sûr aux oiseaux puisque ce sont souvent des indicateurs de bouleversements environnementaux, je vais y arriver. Est-ce que c'est le cas pour, par exemple, les oiseaux migrateurs, les cigognes, nos hirondelles? Est-ce que ces oiseaux sont perturbés par ce réchauffement?
Alors oui, c'est le cas. On note chez les oiseaux des changements de déroulement des événements du cycle de leur vie dans l'année. Les oiseaux migrateurs vont arriver un peu plus tôt, vont repartir plus tôt. Mais c'est aussi le cas chez les oiseaux sédentaires, puisqu'on s'aperçoit que les espèces globalement remontent vers le nord petit à petit, ce qui est aussi une bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire qu'ils arrivent à s'adapter à ces changements, ils arrivent à répondre, à essayer de suivre l'environnement, mais on s'aperçoit aussi qu'ils ne répondent pas assez vite. Un oiseau migrateur qui passe l'hiver en Afrique a du mal à savoir depuis ces milieux africains que le printemps est en avance en Europe et qu'il va falloir rentrer plus tôt. Voilà. Et puis, de la même manière, les espèces remontent vers le nord, mais moins vite que le climat qui se réchauffe, en fait, plus rapidement que la capacité de ces espèces à se déplacer.
Mais est-ce que, par exemple, les cigognes vont finir par ne plus partir en Afrique, même les hirondelles, et rester en France si ça se réchauffe?
Alors, on a déjà, c'est vrai, on note depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que des cigognes passent l'hiver chez nous, dans le sud de la France, et il y a de plus en plus de cigognes qui restent dans le sud méditerranéen. Donc, par contre, il n'y a pas assez de place pour toutes les cigognes, mais effectivement, il y a un caractère migratoire qui tend à diminuer. De la même manière, on a des oiseaux qui viennent chez nous uniquement en hiver, comme la grive movis, hein, qui niche dans les taïgas scandinaves et sibériennes, et qui viennent moins jusque dans le sud de l'Europe. Donc on a moins de grives movis parce qu'elles vont rester hivernées plutôt au Danemark, en Allemagne.
Et est-ce que des espèces d'oiseaux s'en vont de France parce qu'il fait trop chaud?
Alors oui, on note aussi ça. Le fait que les espèces remontent petit à petit vers le nord, ça veut dire qu'il y a des espèces plutôt méditerranéennes qui vont remonter dans le centre de l'Europe, mais qu'il y a des espèces qui aiment les climats froids, hein, qui vont être plus abondantes dans le nord de l'Europe, qui vont quitter le sud de l'Europe. Alors ça se traduit par des déclins de population prononcés chez nous. C'est souvent des espèces qui sont aussi soumises à d'autres pressions, notamment liées à la dégradation des habitats, mais on arrive, en tenant compte du fait qu'elles sont à la fois, par exemple, spécialiste des milieux agricoles, où il y a beaucoup de pression anthropique, et sensible au climat, on arrive à distinguer un peu les deux effets, mais on pourra noter, par exemple, le pipi de farlouze ou le bruant jaune, qui sont des espèces plutôt nordiques, qui souffrent énormément chez nous en ce moment.
Merci Frédéric pour ce constat, merci beaucoup.
Merci.
Je vous en prie.
Donc, je rappelle que vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle « Tous les oiseaux d'Europe », justement, aux éditions de Lachaud et Niesley.
Puisqu'on parle d'oiseaux, on va parler corbeau. Et si vous voulez un corbeau rigolo, allez sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Un corbeau qui fait du surf sur les toits.
Eh ben oui, sur les toits enneigés, bien sûr.
Enneigés, bien évidemment. Et c'est assez drôle, donc
oui,
à retrouver sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC.
Il a trouvé une petite luge, c'est un petit cercle sur lequel il fait de la luge.
Et vous cliquez sur j'aime, bien sûr, sur la page Facebook au passage, si vous aimez, tout comme nous, les animaux. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, on sera là, 6-8.
Oui, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, je vous embrasse et à dimanche prochain.
Et dans un instant, Jean-Luc Moreau pour l'automobile, à tout de suite.